Fenêtre ouverte sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole. On commence avec Cournon-Terral, place aux paillasses. Chaque année, Cournon-Terral célèbre les paillasses le mercredi des cendres, le lendemain de Mardi Gras. Une tradition unique, plusieurs fois centenaire. Fixée cette année au 18 février, cette fête attire plusieurs centaines de participants prêts à en découdre.
À l'occasion des paillasses, le village de l'Ouest Montpellierain se transforme en un véritable champ de bataille. La matinée de cette journée très spéciale est réservée aux préparatifs. La lie de vin, utilisée comme munition, est acheminée à bon port et les habits des deux camps sont confectionnés. Les blancs sont entièrement vêtus de cette seule couleur, à l'exception d'une ceinture, d'une cravate et d'un béret ou d'un bandeau rouge. De leur côté, les paillasses endossent un gibus orné de plumes en guise de couvre-chef, un rabat en poil pour dissimuler les visages, des branches de buis sur leurs épaules, une sacque, un plastron composé d'un sac en toile de jute et rempli de paille, des guêtres et des souliers blancs. En début d'après-midi, les belligérants se retrouvent tous ensemble lors du défilé à travers les rues du village. À partir de 15h, le village est bouclé, plus personne ne rentre et les hostilités débutent.
3 heures durant, les paillasses donnent la chasse aux blancs dans les rues du village, essayant de les salir à l'aide de pelliasses, des serpillères, imbibées de lits de vin. Certains blancs sont même plongés dans des baignoires remplies de ce copieux mélange. Au milieu de ce capharnaüm, il n'y a pas d'observateurs, seulement des participants. Les éventuels passants égarés dans les ruelles de la cité ou les observateurs téméraires doivent prendre garde. Les paillasses n'ont aucune pitié. Une fois la nuit tombée, ce conflit pour le moins salissant prend fin. Une ronde finale rassemble les adversaires de l'après-midi. Chacun se souhaitant rendez-vous l'année prochaine par des Alankevennes, deux mannequins en paille à l'effigie des deux camps, suspendus devant l'hôtel de ville le dimanche de l'Épiphanie, sont brûlés le soir après le jugement du paillasse au son des fifres et du tambour.
Selon la légende, une haine réciproque opposait au Moyen-Âge les habitants de Cournon-Terral. Les paillasses, qui s'approvisionnaient en chêne vert sur les terres de leurs voisins d'Aumelas, les Blancs, soucieux de garder pour eux seuls cette source de revenus. Cette querelle médiévale à l'origine de la tradition des paillasses a occasionné plusieurs conflits entre les deux villages. L'intervention du seigneur local par un jugement aurait mis fin à cette farouche opposition. Plusieurs siècles plus tard, ce fait d'armes est toujours honoré, de manière plus pacifique. Perpétués par les Cournon-Terralais uniquement, les paillasses sont bien plus qu'un simple exutoire au dessein guerrier. Ce rendez-vous annuel est un moment de convivialité et un rite d'intégration pour tous les habitants.
À Prades-le-Lay, le quartier Via la Est, labellisé éco-quartier. En décembre, Jean-Marc Lucert, le maire de Prades-le-Lay, a reçu des mains de Sylvia Pinel, ministre du Logement, le label national éco-quartier pour le quartier Via la Est de la commune. Depuis 2012, seulement 32 opérations à travers toute la France ont été primées par ce label. Situé à l'est de Prades-le-Lay, le quartier Via la, composé de 87 logements en photo, sur cette page, accueillera à terme près de 230 habitants. Il est à la fois exemplaire en matière de respect de d'environnement, de développement durable et de mixité sociale, mais il l'est tout autant d'un point de vue architectural avec ses bâtiments modernes et ses jardins mitoyens arborés, un éco-quartier en tout point relié au centre-ville par des voies piétonnes et des pistes cyclables.
Villeneuve-les-Maglones, coup de main à la nature. Participez à l'entretien des sentiers de randonnée dans les salines du littoral le mercredi 11 février avec le syndicat mixte des étangs littoraux, chargé de la conservation des lagunes de Villeneuve-les-Maglones, Mirval et Vic-la-Gardiole. Au programme de cette journée, débroussaillage, installation de ganivelles, balisage, etc. Le ciel propose également deux sorties, fréquence grenouille pour les familles au crépuscule, les mercredis 18 février et 18 mars à partir de 19h30, à la découverte des habitants des mares. Il faut prévoir des lampes, un coupe-vent et de bonnes chaussures. Les informations par téléphone au 04 67 13 88 57 ou bien sur siel@siel-lagune.org. À Montferrier-sur-Lay, les enfants aussi ont des idées. Parole du maire Michel Fraisse, il est donc maire de Montferrier-sur-Lay et conseiller métropolitain.
En créant le conseil municipal d'enfants, il y a 3 ans, nous avons eu envie d'institutionnaliser la place de l'enfant dans la commune et leur donner la parole. Ils sont curieux et veulent s'investir dans leur village. Une centaine d'enfants des CE1 au CM2 élisent en novembre leurs 13 conseillers. Mais en amont, et c'est fondamental pour le succès de l'opération, le service enfance jeunesse qui les encadre organise des réunions d'information sous forme de jeux et d'ateliers lors des temps d'activité périscolaire. Il fourmille d'idées que nous, adultes, n'aurions pas eues. certaines sont irréalisables, mais la plupart du temps, elles sont fédératrices et améliorent notre cadre de vie. De nombreux projets sont déjà nés du CME, comme le safari d'égout pour sensibiliser les habitants à la propreté, le goûter des aînés, les jardins partagés que nous mettrons en place d'ici la fin de l'année, ou la première course de caisse à savon prévue le 13 juin prochain. Tous ces projets sont suivis de A à Z par les jeunes élus accompagnés par les services et le conseil municipal adulte.
Ils sont 13 filles et garçons, ou entre 9 et 10 ans, et font bouger leur commune. Ce sont les élus du conseil municipal enfant de Montferrier-sur-Lay, un modèle de mobilisation citoyenne.
Et pour en savoir plus, le site internet de la commune ville-montferrier-sur-lay.fr.
À Bayargues du Sucré chez Fédélis. À la différence de ses cousins, les food trucks, aux saveurs salées, Fédélis propose du sucre fait maison. Viennoiseries, macarons, chocolat, gâteaux, mais aussi boissons chaudes. Seule aux commandes de cette pâtisserie ambulante, Solène Guilleneuf s'installe en semaine sur le parking du pôle d'échange multimodal de Bayargues et le samedi sur le marché de Castelnau-le-Lay. La jeune femme de 26 ans est d'abord passée par le domaine de Verchamps en tant que chef pâtissière, où elle a côtoyé les frères Pourcel, célèbre chef montpelliérain étoilé. Après 9 mois de préparation, Fédélis a ouvert ses portes en décembre dernier. Les gens sont assez surpris au premier abord, mais paraissaient emballés par le concept, indique Solène Guilleneuf, épaulée dans son projet par Jacques et Laurent Pourcel. En février, Chandeleur oblige, les crêpes s'invitent au menu de Fédélis, ainsi qu'une surprise à découvrir pour la Saint-Valentin. Tous les renseignements concernant Fédélis se retrouvent sur facebook.com/fedelis.fr.
À Pignan, Julien Marion, champion de France, de retour sur les terrains. En février, c'est le mois de la reprise de la saison pour les joueurs de football américain. Et pour Julien Marion, 17 ans, champion de France junior avec l'équipe de Montpellier, les Hurricanes, ouragan en anglais. Le prochain match à domicile de ce jeune pignanais inscrit en sport-études au lycée Joffre aura donc lieu le 15 février contre Bordeaux, au domaine de Véracy. Julien joue comme défenseur, linebacker, pour l'amour du sport, car en France, il n'existe pas de joueur pro dans cette discipline importée des États-Unis. Son objectif pour cette saison, décrocher un nouveau titre de champion de France dans la catégorie junior à 11, où nous sommes montés. On lui souhaite pleine réussite. Plus d'infos sur le club en allant sur leshurricanes.free.fr.
À Prades-le-Lay, Caléo, une référence du film scientifique. Réalisateurs de films scientifiques et culturels, les frères Reboul sont installés à Prades-le-Lay. De là, les deux Montpelliérains travaillent pour la France entière, depuis le MUSEM de Marseille jusqu'au musée du Quai Branly à Paris et tout récemment le musée archéologique Henri Prades à Lattes. Une réussite made in Montpellier, Méditerranée, métropole.
Dans leur studio, atelier de l'avenue des Baronnes, des pots de bêtes et des pointes de sagaies gisent sur le sol. Lucas et Tommy Reboul, en photo sur cette page, préparent un film sur la vie des hommes préhistoriques d'il y a 36 000 ans pour le facsimilé de la grotte Chauvet en Ardèche. Avant de partir tourner sur le Cosmé, gens, ils perfectionnent leurs accessoires et leurs costumes. Il s'agit d'une pure fiction avec des acteurs, des scènes de chasse et de bagarre, mais dans une approche scientifique rigoureuse. Par exemple, des experts ont travaillé avec nous sur les coutures des peaux, sachant que l'aiguille n'existait pas, explique Lucas. Passé par les Beaux-Arts de Montpellier, puis des études de cinéma, Lucas est un professionnel de l'image qui enseigne aujourd'hui à l'Université Montpellier 3, mais aussi un passionné d'histoire et de science. Nous sommes devenus au fil des ans des spécialistes de la médiation culturelle et scientifique. Nos clients sont des personnes savantes. À nous d'évaluer ce qu'on peut transmettre au grand public, comment le synthétiser, le remanier pour le rendre accessible et ludique. Créée il y a 10 ans, l'entreprise a eu des locaux à Montpellier, à Jacou, au Crès et pour finir aujourd'hui à Prades-le-Lay. Outre les deux co-dirigeants, elle emploie 3 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 400 000 euros.
Ses clients sont essentiellement des musées ou des sites patrimoniaux. Primé à plusieurs reprises en 2012 pour un documentaire sur le relevage d'un bateau gallo-romain retrouvé dans la vase du Rhône dans un état exceptionnel et aujourd'hui exposé à Arles, Caléo figure aujourd'hui dans les réseaux spécialisés jusqu'aux États-Unis. En France, l'entreprise a réalisé des films pour le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de Marseille, le Musée des arts et des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques du Quai Branly à Paris. Et récemment, le Musée archéologique Henri Prades de la métropole de Montpellier à Lattes. C'était émouvant pour moi de faire ce film sur Jean Arnal pour ce musée, car mon père en fut l'un des 50 fondateurs avec Henri Prades dans les années 50, raconte Lucas. Tourné dans la Garrigue au nord de Montpellier, ce film qui donne vie à Jean Arnal, l'archéologue de Saint-Mathieu de Tréviers, est projeté aux visiteurs de l'exposition en cours. Les frères Reboul proposent aussi des dispositifs muséographiques interactifs comme ce théâtre optique qu'ils sont en train de construire pour le site des gorges du Gardon. Chez Caléo, les projets et la passion ne manquent pas. Toutes les informations sur caleo.pro sur Internet.
Dans ces pages consacrées aux communes de Montpellier Méditerranée Métropole, gros plan sur des trésors de l'art roman. Longtemps minimisé par le clergé local, l'art roman est pourtant très présent dans la région. Les témoignages les plus remarquables demeurent à Saint-Guilhem-le-Désert, à Béziers, Rieux-Minervois et Villeneuve-les-Maglones, réputés pour sa cathédrale. Notre métropole recèle pourtant d'autres trésors de cette architecture romane classée monument historique, tels que l'église Sainte-Croix à Montpellier ou Saint-Jean-Baptiste à Castelnau-le-Lez. Visite.
Sainte-Croix à Montpellier. C'est à Seulneuve que réside la seule église romane ouverte au culte à Montpellier et l'une des plus anciennes de la ville. L'histoire de la commune de Seulneuve débute en 799, près de 200 ans avant celle de Montpellier, née en 985. Charlemagne donne à Benoît d'Agnan des terres sur lesquelles il fera bâtir un prieuré nommé Nava Cella, nouveau couvent, qui deviendra Seulneuve. Le nom de l'église célèbre la victoire de ce roi des Francs sur les Sarrasins à Juvignac, qui eut lieu un 14 septembre, jour de la Sainte-Croix.
L'église actuelle a été construite en partie au XIIe siècle sur les soubassements du prieuré carolingien. Avec cet édifice, l'abbaye bénédictine d'Agnan, propriétaire de Sainte-Croix jusqu'à la Révolution, a voulu étendre son influence sur Montpellier et contrôler le trafic de la voie domitienne au cœur du territoire des évêques de Maglone. Sobre et épuré, cet édifice de 21 mètres de long et 7 mètres de large repose sur des murs épais d'1,70 m, typiques des constructions romanes. L'abside est dotée d'une seule fenêtre, dont l'alvéole arrondie retombe sur deux colonnettes engagées. Leurs chapiteaux ont pour simple décoration des feuilles d'acanthe. Cette plante vivace est l'un des plus fréquents motifs des sculptures de l'art roman, le cœur en cul-de-four rappelant la forme du four à pain et séparé de la nef par un arc triomphal. Au XIVe siècle, Sainte-Croix, aujourd'hui enclavée dans le quartier, sera ensuite surélevée sur des mâchicoulis pour défendre la commune. Malgré un incendie et un massacre en 1621, elle a su résister aux guerres de religion. Outre les heures de messe, cette église classée monument historique en 1840 est ouverte au public les jeudis et les troisièmes dimanches du mois de 15h à 17h où vous serez accueillis par des paroissiens bénévoles passionnés par l'histoire de Seulneuve. Sainte-Croix se visite également accompagnée par un guide de l'Office de tourisme de Montpellier. Vous avez d'ailleurs toutes les infos sur montpellier-tourisme.fr. On aperçoit ici une photo de Sainte-Croix qui est donc la seule église du style roman encore ouverte au culte à Montpellier.
Saint-Jean-Baptiste à Castelnau-le-Lez. Fortifiée également, l'église romane Saint-Jean-Baptiste à Castelnau-le-Lez se dresse à quelques mètres du Lez, sur les hauteurs du village médiéval qui avait succédé à la cité romaine de Sextantio, la sixième station relais depuis les Pyrénées sur la voie domitienne. Construit à la fin du XIIe siècle, ce prieuré qui dépendait de l'abbaye de Maglone possède une nef unique formée de quatre travées voûtées en berceau, un berceau brisé et une abside en cul-de-four. Ces murs en appareil de Montpellier, opus Mons Pelientium, une technique de construction alternant les assises de pierre horizontales et verticales, sont l'originalité majeure de cet édifice fortifié au XIVe siècle. Rénové dans les années 90 par la municipalité et la DRAC, ce monument historique arbore également 9 vitraux conçus par François Rouen et un mobilier signé Jean-Michel Villemotte. L'église Saint-Jean-Baptiste est ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h. Une visite guidée de l'église aura lieu dans le cadre d'un week-end de valorisation patrimoniale, samedi 21 février à 11h. Les renseignements sont sur castelnau-le-les.fr.
Autre monument du nom de Saint-Jean-Baptiste à Murviel-les-Montpellier, la paroisse de Saint-Jean est mentionnée au XIe et XIIe siècle dans les actes de l'abbaye de Gélonne, Saint-Guilhem-le-Désert. La partie la plus ancienne de cette église est l'abside de caractère roman, contemporaine à la porte fortifiée, vestige des défenses construites au XIIe siècle, reliées à un premier château fort. Du XIIIe jusqu'à la Révolution, les évêques de Maglone furent les seuls seigneurs de Murviel. Plus d'infos sur ville-murviel-les-montpellier.fr.
La cathédrale Saint-Pierre à Villeneuve-les-Maglones. Dès la fin du VIe siècle, Maglone est le siège d'un évêché. Au XIe siècle, l'évêque Arnaud fait reconstruire la cathédrale Saint-Pierre, témoignage majeur de l'art roman languedocien. Cet édifice fondé sur une presqu'île est doté d'un système défensif qui lui donne un aspect massif propre à l'époque médiévale. Les compagnons de Maglone sont joignables au 04 67 50 49 88. Tous les renseignements sont également sur internet. Vous tapez villeneuve-les-maglone.fr.
On termine avec l'église Saint-Laurent à Latte, construite à partir du XIIe siècle. Sa reconstruction suite à la ruine de l'église est mentionnée en 1689. Le chevet et la façade appartiennent au style roman de transition du XIIIe siècle. Classée monument historique en 1913, cette chapelle est également un bel exemple d'utilisation de l'opus Mons Pelientium. Plus d'infos sur ville-latte.fr. Vous pouvez retrouver toutes ces églises en photo sur ces doubles pages et les visiter également, ainsi que d'autres trésors de l'art roman de la métropole, en allant sur montpellier3m.fr/art-roman.